Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu décalé par rapport aux entretiens avec les dirigeants du luxe que nous avons habituellement. Nous accueillons Bruno Lavagna, qui est consultant en géostratégie du luxe et fondateur du cabinet de conseil Be Exclusive. Bruno Lavagna, bonjour.
Bonjour Olivier, merci pour votre invitation.
On vous accueille aujourd'hui avec plaisir. On vous accueille aujourd'hui parce que vous êtes l'auteur d'un livre sur la géopolitique du luxe. Alors c'est un livre très pratique qui est paru aux éditions Erol et qui se veut utilisable pour les professionnels du secteur, je dirais, parce que il est constitué de 40 fiches illustrées. Qu'est-ce que vous avez voulu analyser en lançant ce projet sur la géopolitique du luxe?
Alors en fait, donc la géopolitique du luxe, c'est comment je me définis. C'est-à-dire que je suis devenu, par les années, expert du luxe, mais je suis quadrilingue, je voyage beaucoup et j'aime vraiment le côté comprendre les autres cultures, coutumes, donc géographie, histoire, donc géopolitique. Et je suis parti de mon idée, mais que je partage avec beaucoup et qui en fait j'enfonce des portes ouvertes, que le luxe étant universel, international, s'adresse à des gens du monde entier, s'inspire de toutes les cultures et variétés de cette planète, et que donc c'est important pour une marque, et on voit encore plus avec l'internationalisation, les réseaux sociaux, de comprendre qui est derrière les consommateurs, parce que quel que soit le nom, et puis le luxe c'est aussi un état d'esprit, hein, c'est pas que des marques, c'est un savoir-faire, c'est des talents, donc chaque pays a son propre luxe, quel que soit son niveau social, quelles que soient ses origines. Et ce qui est important, c'est que on puisse, quand on devient international, qu'on puisse, si on veut être international, c'est savoir comment on va être perçu. Parce que sinon, on passe à côté.
Ce qui est intéressant, et vous mettez en place le cadre assez rapidement dans votre livre, c'est vraiment ce que vous dites, la valeur universelle du luxe. Peut-être que, vu d'Europe, avec les grands noms, Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Porsche, dans l'automobile, on a parfois peut-être un prisme déformant, mais vous dites non, dans chaque culture, même à travers les âges, le luxe était là, finalement il y a des valeurs du luxe qui sont universelles et qu'on va retrouver en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, et qui sont pas forcément celles des marques européennes.
Tout à fait, et je parle surtout concept ou de l'idée, enfin de l'histoire, que quand on parle de géopolitique, ça veut dire un gouvernement, ça veut dire un État, ça veut dire une nation. Et que si l'État est faible ou a beaucoup de soucis à régler, ça va être compliqué pour des artisans, pour des créateurs, pour des designers d'exprimer leur talent. Or, on l'a vu, hein, c'est l'histoire de différents pays que j'analyse, la première partie historique, donc que ça soit la France, bien sûr, très connue, l'Angleterre, le Moyen-Orient, l'Asie. Quand un État veut rayonner, il fait valoir ses coutumes, ses cultures, et il prône ses artisans, il les aide à briller. Donc, bon, si on prend la France, évidemment, c'est le comité Colbert, c'est Louis XIV, c'est Versailles, c'est le Louvre, donc c'est l'architecture. On voit bien que c'est pas que des maisons, c'est un art de vivre. Tout ce que la France rayonne et exporte, son savoir-faire, son excellence. Mais bien sûr, donc des marques françaises comme Guerlain vont s'inspirer de l'Afrique, de l'Asie, Dior, enfin toutes les marques. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a un luxe africain, il y a un luxe oriental, il y a un luxe asiatique.
Alors qu'est-ce qu'on retient, vous parlez du Kenya notamment, si vous voulez rentrer dans le détail sur le luxe africain, parce que c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, si on doit le défendre ici, et si vous devez expliquer un peu comment ça se comment vous le percevez,
parce que c'est ma perception, hein. Après chacun a sa lecture. Alors l'Afrique, c'est un continent exceptionnel, hein. Extrêmement varié. Il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Enfin, et donc c'est compliqué de résumer Afrique du coup, Hein. Donc, si on parle par exemple l'Afrique du Nord, qui est plus proche de nous, Maghreb, Maroc, ben, c'est un pays extraordinaire. Donc, on voit bien que c'est cet accueil, c'est la restauration, c'est à l'artisanat, et que des maisons comme Dior, comme Chanel, comme Saint Laurent, ils sont allés puiser puisqu'ils ont même une fondation Yves Saint Laurent à Marrakech. Donc, ça veut dire que le luxe marocain. Pour d'abord, il est ancestral, hein, c'est historique, c'est pas juste un coup de baguette magique du roi actuel. Il y a une histoire, il y a une tradition du peuple marocain, et ils arrivent très bien à le faire valoir. Et donc c'est un état d'esprit, c'est d'accueil, la cérémonie du thé. Il y a beaucoup d'exemples dans l'habillement, et un habillement qui est différent d'une autre, mais où on s'inspire.
Ce qui est intéressant là, vous l'avez dit directement ou évoqué, c'est on le voit beaucoup actuellement, les groupes de luxe cherchent à travailler la culture, mettre le lien entre leurs produits et la culture d'un pays, de la culture, l'histoire de d'un savoir-faire. Il y a ce côté culturel qui est essentiel et qu'on retrouve de manière universelle.
Très très fort, vous avez tout à fait raison. Si on prend Vuitton, Louis Vuitton, moi j'appelle ça l'intelligence du groupe Vuitton et de Bernard Arnault d'avoir recruté le défunt Virgil Abloh, parce que c'était un Afro-Américain, donc ça veut dire quelque chose, c'est le continent américain, mais avec cette connotation Afro-Américaine, donc il touche toute sa culture, c'est un musicien au départ, c'est un artiste, donc de l'inviter à être le directeur artistique de Vuitton, ça envoie un message, un code. D'abord, ça rajeunit la marque, ça l'ouvre vers justement le monde afro-américain, sur le monde de la musique. Enfin, on l'a vu. Donc, c'est pas anodin et ça permet à Vuitton de devenir cette brand culture. Et on l'a vu avec la fondation Vuitton, on l'a vu avec... Enfin, c'est assez incroyable, voir justement historiquement Vuitton. Encore une fois, c'est quelque chose au départ simple, des bagages solides qui permettaient de voyager avec charrette et autres. Et qui sont devenus, c'est plus que le LV et la mallette Vuitton. Donc c'est aussi parce qu'il y a des artistes, des designers, des créateurs qui viennent et qui sont recrutés d'autres cultures et qui l'interprètent à leur manière, tout en respectant les racines de la marque.
On va avancer parce que sur la géostratégie et la géopolitique, on vit pas mal de changements actuellement. Lié à la pandémie de Covid-19, avec la guerre forcément entre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a le Brexit aussi qui chamboule pas mal les équilibres européens. Tout ça est forcément un chamboulement aussi pour les industries du luxe. Quel est le rôle finalement du luxe dans ce cadre global, dans les échanges internationaux, vous qui analysez justement ouais. les points de géostratégique.
Donc j'ai la chance d'enseigner avant l'écriture de mon livre, hein, qui est une commande de la librairie Erol, et dans cette collection géopolitique, hein, de pays et de thématiques. Et donc je trouve que enseigner, transmettre, c'est fondamental. Et ce que je vois, moi je suis plein d'espoir, plein d'optimisme malgré un contexte lourd, hein, conflit, Covid, climat, énergétique et autres, c'est que nos jeunes ils savent rebondir, être résilients, agiles, ils comprennent la complexité, donc ils s'adaptent, ils voient bien la géopolitique, pour eux c'est clair, parce que c'est une géopolitique climatique, énergétique, pandémique. Pour répondre à votre question, je pense que dans les écoles de management du luxe, où j'ai la chance soit de faire des conférences ou d'enseigner, donc Sciences Po, l'IUM, International University of Monaco, l'IFM, ce qu'il faut donner comme clé à ces futurs managers du luxe, en herbe, et ils les ont, donc c'est juste enfoncer les portes ouvertes et leur dire oui, soyez plus agiles, soyez plus ouverts, soyez plus respectueux, donc de cette géopolitique, de tout ce qu'on vient de dire, et donc ils l'ont, mais encore une fois, le livre existe, il ne fait que écrire des balivernes, tout le monde le sait, tout ce que je donne comme information, comme chiffre, ou comme... je n'ai rien inventé. C'est des choses, c'est une lecture. Et ce qui plaît.
Oui, mais vous mettez du lion et vous mettez un coup de projecteur dessus.
Oui, ça c'est mon rôle. Voilà. J'aime ce côté pédagogique, ce côté fiche. Hein. Erol, c'est vraiment une librairie qui va vers l'enseignement, vers le management et autres. Donc pourquoi j'ai accepté ce défi, parce que c'était un défi pour moi. Je suis pas un auteur, parce que ça me plaisait de vulgariser, mais au sens positif, et surtout de donner une image du luxe. Il faut pas enlever celle qu'elle a de brillance. Il y a du bling bling, il y a tout ce qu'on sait, mais pas que. Il y a une générosité, il y a du partage, il y a une agilité, il y a une compréhension du monde, de la géopolitique. Et puis ce que je vous disais en entretien, en début, la diplomatie a aidé le luxe. Et ce dont je suis convaincu, c'est que le luxe aide la géopolitique.
En quoi les groupes de luxe ou le luxe en tant que tel a un rôle justement au niveau de la diplomatie?
Très simple, parce que quand donc j'ai la chance de travailler avec des ambassades, de la Principauté de Monaco à l'étranger ou de la France, quand vous êtes l'ambassade, et donc bien sûr l'ambassadeur ou l'ambassadrice, vous représentez le chef d'État, vous représentez la nation. D'accord. Donc, vous soyez en Chine, en Égypte ou je ne sais où, vous représentez. On va parler de la France. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour accueillir votre hôte chinois ou égyptien et autres, d'abord vous êtes sur le territoire français en Chine ou en Égypte. Donc, ça a une connotation. Et après, c'est intuitif, c'est instinctif. La personne qui vient s'attend à être reçue comme s'il était à Paris ou à Monaco. Donc il y a les codes qu'on a, et les diplomates, les personnes qui travaillent dans les relations internationales sont formés sans être formés, parce que c'est presque inné. Ils sont sur un sujet bien précis de diplomatie, mais dans les codes pour accéder et traiter tous ces sujets de conflits, de crises humanitaires, ils sont là pour régler un peu des conflits globalement, mais aussi pour aussi promouvoir l'image du pays. Ils utilisent les codes du luxe. Donc, si on prend la France, la gastronomie, il y a souvent un bon repas. C'est dans un beau lieu, parce que l'ambassade de France, ça va être un lieu prestigieux. Je le vis avec la Principauté de Monaco, c'est exactement pareil. On est à l'échelle beaucoup plus petite. Mais ça fait rêver d'une autre manière. Donc, voilà. Donc, là, on parle de gastronomie, art de vivre. C'est du luxe. Et puis derrière, il y a un échange de présents, de cadeaux. Donc, le Chinois va amener ce qui lui est. Donc souvent, ça peut être un animal, hein, un panda ou autre. Et le Français va amener ce qui, là, lui traverse. Est-ce que c'est de l'art datable? Est-ce que c'est un foulard Hermès? Ou du métier d'art, hein. Je travaille beaucoup avec les grands ateliers de France. Donc, on a la chance d'avoir des talents comme les trésors vivants japonais qui sont là pour exprimer cette préciosité, cette unicité.
Vous utilisez même le terme de soft power du luxe au niveau géopolitique. En quoi c'est un soft power et en quoi les groupes de luxe eux peuvent utiliser ce poids qu'elles ont dans les relations internationales?
Tout simplement parce que soft, ça veut dire donc compromis, ça veut dire douceur, mais ça veut dire quoi? Consensus, compromis, dialogue, hein. Donc la diplomatie, c'est fondamental, c'est ça. On s'entend pas, mais il va falloir trouver un PPCM. Le luxe, alors il y a un côté guerrier, hein, dans le luxe, de conquête, de marché, de gagner des parts de marché, des nouveaux. Donc je suis pas en train de, on n'est pas au monde des bisounours, hein. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est de le faire avec talent, de le faire avec conviction, et donc c'est soft power, parce que il y a ce côté l'art de vivre, l'art de se voir, ça va apaiser, ça va quand même, chacun est content d'avoir un bon repas, enfin on va pas stigmatiser que sur les repas, mais ça peut être invité à un concert, à un opéra, ça c'est exprimer un moment de partage. Et c'est du luxe, parce que aller à l'opéra, c'est pas donné à tout le monde. Donc, écouter Cecilia Bartoli ou aller voir des ballets, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un moment de privilégié, de partage. Se trouve que les marques de luxe l'ont bien compris, donc sont derrière, en mécène, hein.
C'est-à-dire, par exemple, vous avez des exemples de, justement, quel type de mécénat elle déploie pour avoir ce rôle-là?
Ah bah c'est très simple. Si je prends les ballets de Monte-Carlo, ils sont en le partenariat avec des maisons de couture, parce que il y a création de vêtements, l'horlogerie Rolex, parce que Rolex c'est la précision, c'est la pureté, donc ça correspond à l'image du danseur, de la danseuse. Donc il y a ces marques ont une légitimité à venir à s'associer ce qu'est la danse, par exemple. Si on prend le sport, on voit bien un Grand Prix de Monaco, ben, pourquoi il y a Tag Heuer, pourquoi il y a Louis Vuitton pour la coupe, enfin, c'est des de challenge, de performance, de technologie, c'est valable dans la voile aussi. Donc, clairement, il y a cette volonté d'échange et de d'amener les gens qu'on soit à la culture ou le sport, il y a un combat. Au JO, on n'y va pas, on va pour être premier. Mais derrière, il y a cette fierté d'être de son pays et de participer au Concert des Nations.
Dans l'ouvrage, vous avez listé 10 défis. Il y a plusieurs éléments que je trouve assez intéressants. Donc, au premier des défis, et vous l'avez évoqué, il y a des défis écologiques. Il y a énormément de choses et les groupes de luxe essayent d'avancer dans ce sens-là. Mais je trouvais intéressant ce que vous avancez sur les thématiques d'inclusivité, les thématiques de respect des femmes. Ça, au niveau géopolitique, géostratégique, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un message qui est porté au niveau mondial.
Oui, oui. C'est clé. Donc, le luxe, comment dire, a la chance d'avoir dans ses gènes d'être tradition-innovation. Et donc, de se challenger, de prendre des risques. Donc, on parlait tout à l'heure de culture afro-américaine, d'aller sur des terrains qui surprennent. On peut être même disruptif. Ils aiment bien ça, c'est le côté innovation, c'est très bien. Si on revient au côté inclusif, ça, c'est quelque chose qui devient un peu tarte à la crème, hein, au niveau mondial, à l'ONU, à l'UNESCO, partout, hein, on devient fatigué de cette inclusivité, presque. Il va falloir qu'on change un peu le wording, on dirait. Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est, donc vous parlez aussi femmes, c'est encore autre chose, c'est l'émancipation. Et que l'inclusivité, ça veut dire vraiment respecter tout le monde. Et faire en sorte que la société soit solidaire, soit, bon. Donc c'est des valeurs fortes. Le luxe, on peut dire, voilà, pas du tout, parce que le luxe peut être justement stigmatisant, clivant. J'ai ma Porsche ou j'ai ma Rolex, mais encore une fois, vous avez bien compris que pour moi, le luxe, c'est pas que ça. Donc, c'est un état d'esprit, c'est un savoir accueillir. Donc, ça, tout le monde l'a. Et quand bien même on parle de haute joaillerie ou de haute horlogerie, à un moment, si on se l'achète pour soi, bon, on peut dire oui, c'est très égoïste, mais c'est aussi se mettre en valeur. Et donc, et puis souvent, c'est l'offrir. Donc il y a partage, voilà. Après, si on prend d'autres, l'habillement, certes c'est pour soi, mais aussi c'est pour être élégant, c'est pour être branché. Pour, on envoie une image, c'est quand même plus agréable de voir des gens avec une singularité et qui envoient un message de leur culture avec une connotation, voilà. Plutôt que, enfin voilà, tout le monde s'habille comme il le souhaite, mais le luxe là l'a bien compris. Et c'est pour ça que c'est, il y a une palette très très large.
Sur les relations, vous avez une fiche sur les relations avec les organismes internationaux. Ouais. Vous parlez de ce qui se fait avec l'UNESCO, avec l'ONU. Pourquoi les marques de luxe vont aller vers ce champ-là, qui n'est finalement pas la culture, qui n'est finalement pas le sport où il y a la compétition, qui est, pourquoi elles tendent à s'associer à ces à des grandes causes, à des organisations universelles.
Alors, faut pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours. Oui. Elles cherchent une légitimité. Donc, quand on s'appelle l'ONU, l'UNESCO, on n'est pas parfait, mais on prône des valeurs d'inclusivité, de paix, de respect de chaque nation, de chaque culture. Et on vient de le dire, les marques de luxe, les maisons de luxe, mais ça peut être les artisans, hein, j'insiste, sont fiers de s'associer à ça, parce que c'est dans leur culture aussi. Donc, ils ont, on en a peut-être pas encore abordé assez, mais l'industrie du luxe, c'est énorme, hein. C'est 1,3 trillion de dollars. Ça concerne 450 millions de personnes minimum, hein. Ça, c'est les chiffres que tout le monde connaît. Mais donc, ça veut dire quoi? Que c'est 30% du CAC 40 en France. Donc, quand l'industrie du luxe tousse, le CAC 40, il éternue, et vice versa. Quand l'industrie du luxe va bien, bah, le CAC 40, il se porte bien. Donc, s'associer à l'UNESCO ou à l'ONU, comme des maisons comme Chanel, comme Guerlain, comme L'Oréal, enfin, ça a une valeur universelle de montrer qu'ils ont les moyens, parce que c'est clair, ils ont les moyens, hein. Ils viennent sauver Notre-Dame, ils viennent prendre des engagements humanitaires, climatiques et autres, et ils le font savoir, parce que justement, pour un peu casser le code, qu'ils sont juste dans leur tour d'ivoire, à faire des profits et autres. Non, il y a aussi une générosité de participer à ça. Donc, si on prend Guerlain, avec l'UNESCO, c'est tout ce projet au niveau des abeilles. Donc, on peut dire que les abeilles, c'est quoi? Mais les abeilles, c'est à protéger. Donc, on est dans le côté climat, espèce. Et il se trouve que, cosmétiquement parlant, pour Guerlain, c'est un axe de recherche, et plus que de recherche, de concret sur des crèmes. Donc, c'est une logique. Si on prend de Chanel avec la haute joaillerie, donc privilégier les perles, ils se sont fait un partenariat avec la Fondation Prince Albert II pour préserver les perles et la culture naturelle. Parce que c'est bien joli de vouloir vendre de la haute joaillerie, mais on peut faire des choses très belles en synthèse. Mais tout le monde aime encore, et tant mieux, le naturel. En sauvegardant aussi, faut pas tout dilapider. Donc c'est important de préserver tout ça, parce qu'on voit bien que nos océans, hein, sont un peu en dangerosité.
Sur les relations internationales, pour revenir sur la géopolitique, on voit qu'aujourd'hui, vous disiez les chiffres de ce que représente le luxe. Les groupes de luxe sont mondialisés. Comment dans une période de tension comme on peut vivre actuellement entre les États-Unis et la Chine, pas mal de ses voisins, l'Europe et la Russie. Comment dans ces périodes de tension, finalement, le luxe navigue en étant, je sais pas, quand je suis Ralph Lauren actuellement, est-ce que c'est compliqué d'aller en Chine? Quand je suis Louis Vuitton, comment je fais pour continuer à séduire mes clients russes? Comment on le voit, quels sont les éléments de géopolitique, de géostratégie déployés par les groupes actuellement?
Alors là, vous touchez un point crucial, et c'est que du cas par cas. Parce qu'il n'y a pas de règle, c'est chaque maison, marque, dirigeant, propriétaire qui, selon ses convictions, selon son intention aussi de donner un signe fort. Donc, si on prend la Russie qui quand même monopolise le débat actuellement, malheureusement, on peut que regretter que les maisons, elles se retirent pas comme des Renault ou autres, mais parce que elles décrètent à juste titre qu'elles maintiennent leur salaire russe pour un marché, mais elles vont jouer sur des mots, sur rupture de stock, sur une complication qui est vraie en plus, complication logistique. On parlait tout à l'heure de logistique. Bon, donc en gros, c'est faire passer un message que voilà, on peut pas tout cautionner, mais est-ce qu'on a le droit ou devoir de parce que le gouvernement, il faut toujours distinguer gouvernement russe et population russe. Tous les Russes ne sont pas pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ceux qui vivent en Russie, est-ce qu'on doit les priver de ce qui se passe? C'est un choix extrêmement compliqué. Donc, ce n'est pas moi qui vais donner la réponse là avec vous. Mais donc, je sais qu'en haut lieu de chaque maison, chaque borne, c'est très, très compliqué à gérer. Et il faut respecter ce que chacun arrive à faire. Généralement, alors, ce qu'on peut voir, si on passe à la Chine, mais c'est vrai dans tous les pays d'une manière générale, mais les managers deviennent des nationaux, qu'on le veuille ou non. Donc en Chine, c'est des managers, avec le Covid on l'a bien vu.
Oui. Bon.
Donc c'est un risque à prendre
parce qu'il y a le poids du local en fait.
C'est fondamental parce que comme je disais, pour respecter la culture chinoise ou russe, bah, c'est qui mieux qu'un russe ou qu'un chinois peut le faire.
D'accord. C'était pas le cas avant.
Et c'était moins le cas avant. Mmh. Mais il faut pas se faire harakiri. C'était pas le cas avant parce qu'on était en train de découvrir, on ouvrait. Je parle beaucoup de Pierre Cardin dans mon livre aussi. Feu Pierre Cardin, mais c'est un génie quand même parce que il a, quand on parle de géopolitique, il a premier à sentir l'ouverture de la Chine en 78 avec Deng Xiaoping, hein, enrichissez-vous. Il est allé faire son défilé sur la muraille de Chine. Et ensuite, la chute du mur, il était à Moscou le premier sur la place rouge, faire son chef. Et là, à chaque fois, il a envoyé un message en disant, je suis Pierre Cardin, mais j'habille col Mao, soie chinoise, j'habille avec les codes culturels russes, d'accord? Donc ça a tilté. Il était plus connu que n'importe quel président français. Mmh. Bon. Donc, pour revenir à votre question, je pense que la subtilité, c'est d'être dans ce soft power, c'est mesurer. C'est pas prendre des décisions drastiques. C'est de dire, on lève un peu la pédale, on regarde, on teste. J'ai travaillé pour Ferragamo et j'ai appris beaucoup. On lance des produits sans le dire. Si ça marche, c'est un icône product, la scarpe, le foulard. Si ça marche pas, on retire. C'est magique. Et je pense qu'on a une grande leçon d'une manière générale. Donc, beaucoup de maisons maintenant font ça. C'est-à-dire prudence, mais agilité, adaptation, regarder et s'enrichir justement de femmes et d'hommes de la culture qui vont dire warning. Alors là où faut pas être bisounours, c'est que ces gens-là, il faut pas qu'ils détournent la marque et qu'ils fassent des choses.
C'est un peu la période de tension actuelle.
Ça peut être la période de tension. Donc géopolitique égale cherche un compromis, puis chacun a tiré un peu la couverture à soi. Hein. Mm-hmm. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est vigilance en permanence. Mais comme c'est universel, bah, voilà.
Et donc,
puis, il y a les réseaux sociaux. Donc, très vite, on le voit. Vous savez que on bifurque, hein. C'est moi. Mais les réseaux sociaux aident à la contrefaçon. Quelque part. Parce que contrefaçon, c'est le fléau du luxe.
Oui.
Il y en a encore.
Et c'est, en termes de géopolitique, c'est aussi une question importante.
Hyper importante.
Quelle est justement la, ce que vous parliez de luxe globalisé, mais les réseaux de contrefaçon sont aussi globalisés, tout comme le marché du luxe. Quel est le rapport finalement que vous voyez sur les jeux de tension, les jeux de entre régions, entre pays, autour de la contrefaçon et les rôles du luxe là-dedans?
Ben, je pense que c'est pas pour accuser la Chine ou autre, mais on sait quand même qu'un gros marché de la contrefaçon vient de ce pays empire. Mmh. Bon, après il y en a d'autres, mais voilà. Je pense que, encore une fois, avec prudence, parce que je pense que les Chinois comprennent que c'est un peu dans leur gène de copier. Hein. C'est intéressant de le comprendre.
C'est un élément culturel et de réussite.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas inventer, parce qu'ils ont inventé la roue, ils ont enfin, plein de choses. Là, soit. Mais sur certaines choses, comme les Japonais, parce que moi je suis la génération des Japonais qui copiaient, hein, les Chinois ont copié. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont vu la limite du copiage, parce que quelquefois c'était mal fait, parce que parfois c'était trop visible, et puis je parlais de réseaux sociaux qui aident à lutter, et puis les eBay, les ventes en ligne et tout ça, vous savez que les plateformes sont plus qu'invitées, ont le devoir,
hein, ils sont en train de réagir,
voilà, parce que sinon elles sont mortes,
oui. Hein,
parce que on n'a pas, si on va au marché de Vintimille qui n'existe quasiment plus, on allait acheter de la contrefaçon, donc on participait. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette. C'est là où les jeunes sont extrêmement positifs. Ils sont dans le vintage, ils sont dans le second main et autres. C'est différent. Mm-hmm. Hein? J'ai pas besoin d'expliquer. C'est complètement différent. Donc il y a un état d'esprit totalement différent. Et c'est ça qui est très intéressant. Faut garder le fil conducteur. C'est que la contrefaçon, comme il y a un peu moins de demandes et que elle est plus visible, elle a tendance à s'atténuer. Elle existe encore. Hein? Des faux parfums, des faux vêtements, des faux sacs et autres. Mais voilà, donc moi, dans mon degré optimiste, c'est vrai que c'est le consommateur qui est le directeur. S'il n'a pas envie d'acheter de contrefaçon et qu'il préfère seconde main, le vintage qui explose...
Qui est en plein essor, oui.
Eh ben voilà, c'est lui. Parce qu'il ne va pas avoir un faux Lacoste ou un faux Ralph Lauren. Ouais.
Il a préféré mettre la même somme pour
alors
un vintage.
Que, moi, j'ai pas peur de le dire, j'étais de la génération, on revenait de Hong Kong, on était content d'avoir le double croco, d'avoir le four Ralph Lauren, parce qu'on se dit, ah, je l'ai eu à 20 euros, enfin, faut être honnête avec soi-même, faut, on change. Ça, c'est plus du tout
c'est has-been, c'est horreur.
Sur les développements géopolitiques actuels, vous, par rapport au développement de la stratégie des groupes de luxe, avec le fait qu'ils soient, vous parliez des réseaux sociaux, assez exposés dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur un marché où c'est considéré comme de l'accaparation culturelle ou c'est considéré comme parfois une insulte à la culture. Comment, et derrière, on sait aussi qu'il y a des pressions politiques, c'est un jeu politique et d'influence. Comment vous voyez évoluer le fonctionnement des groupes de luxe, des maisons de luxe, par rapport à ce contexte global-là, qui est assez en tension? Vous disiez que vous étiez optimiste, alors ouais. est-ce que les groupes de luxe peuvent être optimistes?
Oui, parce que justement, alors dire communication, dire marketing, direction marketing au board, En invitant des gens de différentes cultures, ils ont des warnings instantanés de qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois de plus, dans la communication d'une marque de luxe, elle se veut universelle. Donc, a priori, la com va être partout la même. Encore que, il peut y avoir des adaptations. Mais prenons des cas concrets, ça parle toujours plus, même s'ils sont un peu vieux et que tout le monde les connaît, c'est très parlant. Dolce & Gabbana, vous connaissez l'histoire. Je voudrais reprendre Dolce & Gabbana. C'est que c'est une marque disruptive qui aime bien un peu provoquer, choquer, mais qui est dans le sens, moi je suis un peu italien, qui a ce côté enjoy et qui veut par le ludique et par la provoque, un peu comme à la Madonna, elle va trop loin, mais ça reste politiquement correct. Parce qu'on est, c'est italien, parce que c'est européen, parce que c'est occidental. Quand vous êtes dans la culture chinoise, ce n'est plus du tout drôle et rigolo. Parce que vous êtes patriote, vous êtes nationaliste, vous voulez acheter du Dolce & Gabbana, mais quand même, vous êtes chinois. Donc, se moquer, parce qu'il voulait pas se moquer, mais ça a été interprété. Donc, c'est pas à vous que je vais apprendre la communication, il suffit pas d'envoyer un message, savoir comment il est perçu et compris. Eh ben, c'est une erreur grossière. Bon, alors, grossière au sens où ça s'est fait trop rapidement, ça s'est fait trop justement avec un cursus occidental. Donc aujourd'hui, toutes les marques travaillent conjointement avec des femmes et des hommes des pays respectifs pour mettre en alerte. Non, donc on a parlé de Dolce & Gabbana avec les baguettes et pour manger une pizza, c'était se foutre des Chinois, clairement. Donc offense. Donc, boycott. Ça va vite, hein. Et là, les réseaux sociaux. Autre exemple, pareil, très connu, mais ils sont tellement révélateurs. Sharon Stone, icône de Dior, qui arrive à Hong Kong, qui est bouddhiste. Et voilà, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Sauf que Sharon Stone, comme Monsieur Macron, à un moment, il peut pas dire que ce qu'il pense. Parce qu'il est le président de la République ou parce que Madame Sharon Stone, elle était l'icône Dior. Donc, aller, en plus, en territoire Hong Kong, bon, quasi chinois, enfin chinois, dire qu'elle apprécie Dalai Lama, c'est juste donc contredit immédiatement par Monsieur Arnaud, par le groupe LVMH, par elle-même, pour pas que ça soit une catastrophe Jordan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, on peut dire après oui, politiquement correct, on peut plus rien dire. Oui et non. On revient dans le côté soft, c'est que une égérie, une marque, elle envoie un message. Donc il faut que elle soit audible, perceptible. Sinon, si elle ne veut pas être audible, perceptible, elle sait qu'elle se met à dos le marché. Donc c'est deux stratégies. Elle peut dire bon bah moi, si c'est pas être politiquement correct, je vais pas en Chine ou je vais pas en Russie. C'est un choix. Mais si vous avez envie de attirer et d'avoir des clients russes, chinois ou autres, hein, on va pas focaliser que américains, il faut aller un peu dans leur sens. Il faut Louis Vuitton l'a très bien compris quand sous Trump c'était First America, eh ben ouverture d'une méga factory Louis Vuitton dans le Texas.
C'est intéressant parce que Louis Vuitton, numéro un mondial du luxe, c'est vraiment de la géopolitique.
C'est clair.
C'est vraiment des choix stratégiques.
C'est des choix stratégiques.
Mmh. Et avec un.
Cette brand culture, enfin, il y en a d'autres qui sont en train de naître, hein, qui sont déjà là. Mais il y a une vraie volonté de n'être plus que maltier, déjà.
Oui.
Donc c'est tout secteur. C'est quand même extraordinaire. Et tout pays. Tout le monde a ou a envie ou Que ce soit le petit bracelet ou bien sûr la montre, le parfum, enfin, tous les produits maintenant sont faits pour que ça soit accessible. Mmh. Ça n'empêche pas d'avoir la malle sur mesure qu'il faut attendre 3 ans et à des prix astronomiques.
Le fait de que ces groupes soient et la puissance maintenant de soit même parfois beaucoup plus puissant que certains États. La relation entre un État et un groupe de luxe, que ce soit LVMH, les
Kering, Chanel, Hermès, ouais. Richemont, Estée Lauder,
ça a évolué. Ça, c'est leur rôle dans les géopolitiques, ça évolue. On voit aussi que les politiques français ont des relations toujours particulières avec les dirigeants des groupes de luxe.
Tout à fait. C'est même ce qu'on peut leur reprocher, c'est de faire de ils s'immiscent dans la politique du pays. Oui et non. Parce que, excusez-moi, je pense pas que si Madame Macron est en habillé Vuitton, tout le monde le sait, c'est plutôt bien pour l'image de la France. Ça aurait pu être Chanel, ça peut être Hermès, une autre marque. Bon, elle a choisi cette marque. Voilà. Elle a le droit d'avoir
une préférence.
Une préférence, mmh. Voilà. La princesse Caroline, elle aime Chanel, elle était amie de Karl Lagerfeld. Voilà. Bon, c'est des ambassadrices, puisque elle. Donc, oui, pour répondre à votre question, ces marques s'immiscent, mais en soft, ils ne viennent pas, dans le côté politique. Mmh. C'est l'art de recevoir, d'être bien habillé ou de... Alors peut-être qu'on peut toujours dire, oui, bah, ils voient ça de façon très... Je pense qu'il faut rester optimiste. Ça n'engage... C'est pas méchant. Voilà.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parliez des réseaux sociaux et ils sont toutes les marques, hein, pas seulement le luxe, mais toutes les marques sont aujourd'hui... dès qu'il y a un sujet, alerté, mise à contribution, en disant « Ah, vous n'êtes pas assez responsable. Ah, vous faites ça, mais vous ne devriez pas le faire. Ah, vous vous préoccupez pas du sujet des Ouïghours en Chine. Vous vous préoccupez pas de tel débat. Vous n'êtes pas inclusif. » Les injonctions comme ça, comment les... qui sont finalement très liées aussi à des débats régionaux, des débats culturels, comment les groupes, d'après vous, les appréhendent? C'est assez récent et ils n'avaient pas forcément cette culture-là. Comment ils les appréhendent?
Complètement. Je pense que certains groupes, sans que ça soit forcément officiel, ont une cellule un peu géopolitique. De justement warning, qu'est-ce qui se passe pour, et de toute manière, moi je suis un homme de marketing, donc le marketing c'est devancer, mais c'est aussi comprendre ce qui s'est passé, hein. C'est tradition, innovation. Donc on a l'homme de marketing, il va s'enrichir par l'histoire, par la lecture, la philosophie, etc. Aujourd'hui il ne peut s'enrichir aussi par la géopolitique. Ça, c'est évident, c'est app. Et voir justement tous les sujets et les tendus, conflits et qui sont sujets à s'enflammer. Donc, une bonne direction marketing a forcément une cellule de veille, soit interne, soit externalisée, d'être irriguée. Et comment anticiper et comment réagir par rapport, parce que vous n'êtes pas à l'abri, oui, du Ouïghour, du donc il faut tout de suite pouvoir on peut parler aussi de, vous savez, Jane Birkin, le sac Kelly, oui. Bon, les crocodiles, hein, c'est l'exemple aussi concret. Hermès a mis une politique vraiment drastique de traçabilité. Et donc justement, on parlait de culture de perles, de culture de crocodiles pour l'exploitation de ces de peaux et de sacs. Je travaillais donc avec des artisans métiers d'art sur les cailles de tortue. Depuis 1974, c'est interdit. Donc, pour le citer, Monsieur Bonnet, Christian Bonnet Lunetier à Paris, il travaille encore parce que l'écaille de tortue, c'est la légèreté, c'est la souplesse. Monsieur Schiffer, tout le monde a, enfin, beaucoup de personnes ont leurs lunettes. C'est de l'écaille de tortue qui est revisité. C'est un stock qui donc quand vous avez une lunette, vous venez la faire retravailler et puis vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est préserver la nature au sens étymologique du terme, et que le luxe là est un garant de dire oui, on va pas utiliser de l'ivoire, on va pas utiliser de l'écaille de torture qui avait déjà dans le commerce, et le peau de crocodile et autres et autres. Donc on n'est pas à l'abri de l'erreur, hein. Mais c'est montrer cette vigilance et prôner, et c'est compliqué. Mais une fois de plus, dans mon optimisme, la traçabilité, donc la digitalisation, permet, avec un QR code, très facilement, de voir d'où vient la matière première.
Pour terminer cet entretien, je voulais vous demander, on l'a dit là, c'est depuis 3 ans, c'est très très mouvant au niveau géopolitique. Vous voyez, sans jouer les oracles, mais vous voyez quel sujet majeur à traiter au sein des groupes actuellement?
Je pense que le changement climatique, là, c'est clé, dans tous les sens du terme, parce que le luxe, c'est justement planétaire. On voit que partout la planète, le climat est déréglé, que ça soit froid ou chaud. Les glaciers qui fondent, tempêtes, enfin bref, voilà. Le luxe, c'était justement beaucoup voyager, donc et on continuera à voyager, mais de façon beaucoup plus raisonnée, de beaucoup plus légitime. Donc, je pense que, enfin, c'est difficile d'être Monsieur Soleil, hein. Mais moi, mon sentiment, les personnes avec qui j'ai la chance de travailler, me disent que vraiment, une des priorités, c'est cet engagement solidaire climatique. Parce que ça couvre tout après. Ça couvre énergie, ça couvre... Enfin, c'est un peu le point d'entrée. Et c'est tellement clair qu'il faut apporter une réponse. Hein, le JESC l'a encore dit. On voit ce qui se passe là en Gironde, tout simplement en France. Ces pics là, à Paris, 40 degrés. Enfin, on a l'impression d'être à New York. Ou, encore une fois, moi j'étais hier avec des Américains, ils me disent « Oui, bah, il fait pas tellement plus chaud que nous. On est habitué. Oui. » Sauf qu'à Paris, on n'est pas habitué.
C'est pas le même climat.
Donc ça veut dire que ce changement climatique, il est incontournable, il est là. Et le luxe, par les postures, par les habitudes, parce que c'est à nous de changer, hein. Comme il est iconique et universel, sans être donneur de leçons, il peut accompagner, il peut anticiper et donner ces phénomènes de mode. Hein. Mmh. Vous avez eu mon ami Pierre-François Louette lors du dernier podcast, et c'est vrai que ce côté tendance, ce côté socio-culturel, c'est clé. Et le luxe a cette particularité. Les défilés haute couture, c'est iconique. C'est à Paris, New York, Milan, Londres. Et les défilés croisières, Dubaï, Monaco, Singapour. Bref, ça donne un peu le là. Mm-hmm. Et donc, si la marque, la maison... Mais c'est vrai aussi dans les métiers d'art. Hein, j'y reviens parce que j'y crois beaucoup. Il n'y a pas que les grandes maisons. Et derrière les grandes maisons, travaillent avec les métiers d'art. Beaucoup. Par affection de Chanel, Hermès, les petites mains. Hein, mais c'est petites mains au sens noble, oui, du terme. Petit, précieux, hein, niche. Contribue. Donc, il y a une révolution comportementale, ça c'est clair. Et je pense que les marques de luxe ont à la fois anticipé et un devoir de le faire. Droit et devoir.
Bruno Lavaigne, merci beaucoup.
Merci à vous, Olivier.
Merci d'avoir écouté ce podcast. À très vite pour une nouvelle écoute.